Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne avec vous pour les 30 prochaines minutes. Au sommaire, cette semaine, le congrès annuel de l'Association canadienne-française de l'Alberta propulse la francophonie albertaine vers de nouveaux horizons et des relations à bâtir.
On propose au gouvernement 200 actions dans 8 secteurs d'intervention pour les 5 prochaines années. Alors, c'est très, très ambitieux. Il y a des choses là-dedans qui sont quand même faciles à aller obtenir. Évidemment, il y a des points qui sont plus ambitieux, mais c'est pour ça qu'on se donne un échéancier de 5 ans.
Les petites et moyennes entreprises sont les mailles du tissu social et du développement économique de la région de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse.
Il n'y a pas beaucoup de big box store ou quelque chose de même à Chéticamp. On a toujours resté de manière de privé puis indépendant des grandes villes puis des grosses entreprises. Puis c'est quoi ce que je dirais, c'est le heart and soul. Je ne sais pas comment je dis ça en français, mais c'est pas mal ça ce que c'est de Chéticamp. C'est toutes des petites entreprises, puis il y en a beaucoup quand ils sont pour une espèce, l'autre avant nous autres, puis c'est important de les garder là.
Les chevaux de l'île de sable attendaient l'ouragan Fiona de pied ferme, le vent dans leur crinière.
C'est que les chevaux ont vraiment l'instinct dans des conditions comme l'ouragan Fiona d'aller s'abriter derrière des dunes. Il y a quand même des crêtes de dunes significatives sur l'île de sable. Ça fait qu'il y a la place qu'ils peuvent aller se cacher, se réfugier.
Et notre périscope pointe en direction de la Nouvelle-Écosse, de Fermont et de Tête-à-la-Baleine au Québec et de Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Bienvenue à Point de vue.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le congrès annuel de l'Association canadienne-française de l'Alberta vient de prendre fin et l'heure est au bilan pour cet organisme qui défend les droits des francophones albertains depuis bientôt 100 ans dans cette province de l'ouest du pays. Une association qui travaille à mieux les représenter auprès du gouvernement provincial et fédéral notamment. Isabelle Lorrain, directrice générale, fait le point sur une année marquée par la modernisation encore à achever de la loi canadienne sur les langues officielles, sur laquelle table d'ailleurs le gouvernement fédéral. Le plan d'action de l'Association canadienne-française de l'Alberta en main près de 200 recommandations à soumettre aux différents paliers de gouvernement, dont à la législature albertaine. Cette dernière qui doit encore d'ailleurs déployer sa politique de service en français adoptée en 2017. Vincent Lavoie est en compagnie de la directrice générale de l'ACFA, Isabelle Lorrain.
Isabelle Lorrain, vous êtes la directrice générale de l'ACFA provinciale, si on peut dire. Et donc, vous ressortez tout juste de cette fin de semaine du congrès de la francophonie albertaine. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dresser un bilan 2021-2022 pour la CFA provinciale?
D'abord, au niveau fédéral, on travaille toujours à s'assurer que la loi sur les langues officielles soit modernisée. Donc, ce n'est pas encore chose faite, mais je dirais que les choses avancent quand même. Il y a un projet de loi sur la table et la semaine prochaine, justement, la CFA comparaîtra au comité permanent des langues officielles. Donc, on continue à en discuter puis à travailler là-dessus. On travaille également pour qu'on ait un plan d'action sur les langues officielles qui reflète les besoins des communautés. Donc, là aussi, on investit beaucoup d'énergie. Au niveau provincial, bien, ce qui nous occupe, c'est la mise en œuvre de cette politique en matière de francophonie qui a été adoptée par le gouvernement d'Alberta en 2017. L'ACFA a profité de la dernière année pour rassembler, rallier la communauté autour d'un plan d'action qu'on appelle la francophonie albertaine, qui est notre proposition concrète pour une mise en œuvre réussie. Donc, on propose au gouvernement 200 actions dans 8 secteurs d'intervention pour les 5 prochaines années. Alors, c'est très, très ambitieux.
Est-ce que vous êtes quand même assez confiant à la CFA que le gouvernement va écouter quand même une bonne partie d'entre eux?
On espère. Il y a des choses là-dedans qui sont quand même faciles à aller obtenir. Évidemment, il y a des points qui sont plus ambitieux, mais c'est pour ça qu'on se donne un échéancier de 5 ans. Alors, évidemment, on va vouloir mettre en place des petites bouchées, puis ensuite de ça, aller vers les plus grands morceaux. Donc, on va travailler ça avec les différents ministères, avec nos chefs de file également. Ce ne sera pas un travail que l'ACFA va faire seul, mais on est bien appuyé là, pour avancer ça.
Et justement, j'imagine que vous faites référence justement à cette période de 5 ans, le plan stratégique 2023-2028 là, de la CFA.
Oui, donc si on donne quelques exemples concrets pour les gens, mais d'abord, on propose au gouvernement de modifier le protocole pour les drapeaux de cérémonie. Présentement, les drapeaux de cérémonie peuvent être hissés un seul jour, alors que nous, on demande que ce soit levé, par exemple, pour tout le monde de la francophonie, étant donné que le drapeau franco-albertain a été reconnu comme un symbole de distinction par le gouvernement d'Alberta. Également, on souhaite que le gouvernement identifie les employés d'expression française puis développe un répertoire de personnel bilingue. Donc, ça permettrait vraiment aux travailleurs communautaires de pouvoir interagir avec les bonnes personnes au sein des ministères, puis ça faciliterait beaucoup de choses. Également, on aimerait que le statut du campus Saint-Jean soit reconnu comme seule institution de langue française en Alberta au niveau postsecondaire, et ça permettrait de reconnaître ses besoins particuliers. Donc ça, c'est trois exemples d'actions concrètes, d'actions qui ne coûtent pas nécessairement beaucoup d'argent, mais qui nous permettraient d'avancer puis de faire des grandes avancées pour notre communauté.
En dehors de ça, on voyait dans votre rapport de la direction qu'il y avait quelques points qui étaient bien entamés à la CFA provinciale. Est-ce qu'on pourrait peut-être en parler un peu? Le premier, c'est renouveler et signer les ententes communautaires. Donc, ça, j'imagine, c'est des ententes peut-être avec les CFA régionales et tout ça pour des événements et tout ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu?
Oui, les ententes qu'on parle de renouveler, ce sont les ententes avec nos chefs de file. On en a 6 au niveau des secteurs et 2 au niveau des clientèles qui sont arrivés à échéance. Par contre, la CFA s'engage dans un grand processus de modernisation de sa structure. Donc, on va revoir la façon dont on est organisé entre un secrétariat provincial puis 12 ACFA régionales. Donc, ça, c'est un grand travail qu'on entreprend. Et on pense, on va réviser les ententes avec les chefs de file, mais on va probablement faire ça après avoir révisé la structure de l'ACFA pour nous assurer d'un meilleur arrimage communautaire. Et ce qu'on veut faire, c'est nous assurer que les programmations, les programmes, les services qui sont développés par les organismes chefs de file puis les organismes provinciaux puissent vraiment bien être déployés dans les régions, puis que les Albertains, Albertaines d'expression française, peu importe où ils sont, aient accès à ça. Donc, on est dans vraiment une grande étape de réflexion d'où s'en va la communauté pour mieux répondre aux besoins des citoyens sur le terrain.
Le deuxième point, c'est les préparatifs pour le centenaire de la CFA. Ça s'en vient en 2026, ça s'en vient très vite, on pourrait même dire. Y a-t-il des choses peut-être qui sont un peu lancées de ce côté-là? Y a-t-il des idées de concept?
Pas encore des idées de concept, quoique quelques personnes qui m'approchent pour commencer à me partager des idées. Je dirais qu'on souhaite vraiment être visionnaire pour le centenaire. On souhaite vraiment se réinventer puis, comme on disait dans le cadre du congrès, propulser la francophonie albertaine. Donc, se projeter de l'avant. Et c'est ça vraiment le présentement qui anime le conseil d'administration. On veut se repenser pour être toujours pertinent et efficace et efficient pour notre communauté. Donc, je pense que les célébrations, ça viendra un petit peu plus tard, mais là, on se donne les 3 prochaines années là, pour réfléchir à nos structures. Puis, évidemment, dans les prochains mois, on va mettre en place un comité du centenaire et ensuite de ça, là, découlera justement les concepts des festivités et autres. Mais là, c'est vraiment plus... c'est ça, on se repense pour vraiment répondre aux besoins des francophones.
Isabelle Lorrain, vous êtes donc la directrice générale de la CFA provinciale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler aujourd'hui.
Merci, Vincent.
La Semaine de la petite et moyenne entreprise est une célébration annuelle nationale de l'entrepreneuriat financée depuis 43 ans par la Banque de développement du Canada. L'événement vise à mettre en lumière la contribution des entreprises locales au développement de leur communauté et du tissu social d'une ville, région et province, et à souligner évidemment les bons coups des entrepreneurs locaux. Marc Neary est propriétaire de 2 entreprises à Chéticamp, Nouvelle-Écosse. Il est propriétaire de Waboo's Pizza et du Doryman Pub and Grill. Il souligne que les petites et moyennes entreprises jouent un rôle de premier plan dans l'économie de la communauté de Chéticamp et qu'il est très important pour lui de soutenir donc ces infrastructures commerciales locales, ces dernières qui ont été évidemment durement touchées par la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. Mais M. Neary estime du même coup que cette période difficile s'est révélée porteuse de nouvelles manières de faire des affaires. Notre journaliste Daniel Aucoin a rencontré M. Neary, propriétaire de ces 2 entreprises de Chéticamp.
Marc Neary, bonjour.
Bonjour, Daniel.
Marc, lorsque tu étais plus jeune, te voyais-tu devenir entrepreneur?
J'ai tout le temps aimé de prendre charge des activités et des choses comme ça. Puis mon grand-père avait été en affaires pas mal toute sa vie, puis mes oncles et ça. Ça fait jouer à ça en grandissant, que c'était surtout dans la famille. Ça fait que j'ai voulu garder ça à Gowen, puis comme j'ai dit, j'aime de prendre charge des activités, choses comme ça. Fait que j'ai juste tient à Gowen à faire ça, manière en affaires, puis mes own entreprises.
Selon toi, c'est quoi la chose la plus importante pour commencer son entreprise ici à Chétiquan?
L'affaire la plus importante, moi je dirais, c'est qu'il faut que tu sais parer à mettre le temps. Mm-hmm. Faut vraiment, les premières années, puis même, ça fait juste 5 ans pour moi, là, mais c'est loin d'être fini, mais faut vraiment que tu sais dévouer puis mettre le temps dans l'ouvrage. Il y a rien dans ton entreprise que tu devrais pas pouvoir faire toi-même pour que tu peux montrer aux autres, pour que tu peux montrer à ta staff que toi, tu peux le faire aussi. Je trouve que ça, c'est vraiment important. Mais la plus grosse chose que je dirais, c'est faut que tu sais available, faut que tu peux mettre le temps puis mettre l'effort.
Comment difficile que c'est de recruter des employés dans une région comme Chétiquan?
Non, c'est pas mal difficile. Il y a des nouvelles choses que je fais dernièrement, comme j'ai ajouté quelques années, 2 ans de ça, j'ai ajouté des medical benefits, des choses comme ça. Pour les plats pour les dentaires, puis même des assurances de vie. Fait que ça, c'est une façon de enjôler le monde de venir. Mais c'est vraiment difficile, puis il y a juste moins de monde, right? Fait que le pool d'employés est beaucoup moins grand qu'il était avant, puis c'est juste, faut juste que tu les traites comme il faut, puis il faut que tu les payes bien, puis il faut que tu les rappelles que tu les apprécies souvent, puis ça goes a long way.
C'est quoi l'importance d'un plan d'affaires ou d'un business plan pour une entreprise?
La première chose de tout, si t'en as pas un, t'auras pas gros funding. Si tu vas pour de l'argent aux banques ou aux caisses populaires ou quelque chose comme ça, c'est la première chose que tu as demandé pour, c'est un plan d'affaires. Puis ça, c'est important de le faire. Moi, je les ai fait moi-même, puis je crois que c'est important de faire ça. Si tu peux les faire toi-même ou avec l'aide, il y a des services locaux qui peuvent t'aider. Mais si tu le fais l'ouvrage toi-même, là, tu vois vraiment qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce que ça prend. Puis surtout tes nombres, tes chiffres connaître, tes figures et qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. C'est tout de quoi qui est fait dans le business plan. Ça fait que c'est vraiment important de faire ton plan d'affaires, puis de le suivre, puis de le réviser surtout à tous les couples d'années pour sûr.
Comment importantes que sont les petites et moyennes entreprises ici à Chétiquan?
Très importantes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de big box store ou quelque chose de même à Chétiquan. On a toujours resté de manière de privé puis indépendant des grandes villes puis des grosses entreprises. Puis c'est quoi ce que je dirais, c'est le heart and soul. Je sais pas comment je dis en français, mais c'est pas mal ça ce que c'est de Chétiquan. C'est toutes des petites entreprises, puis il y en a beaucoup quand tu es ici pour une espèce, l'autre avant nous autres, puis c'est important de les garder là. Puis c'est tout important d'avoir des nouvelles aussi. Puis si c'était pas des petites et moyennes entreprises à Chétiquan, il y aurait pas grand-chose de reste.
Tu contribues ou tes entreprises contribuent beaucoup à la communauté tout au long de l'année, les associations, les fundraisers?
Oui, il y a tout le temps checker à la porte, puis c'est bien rare que je dis non. Des fois, c'est en forme d'argent, des fois, c'est en forme de certificats cadeaux, des prix, de manger ou quelque chose comme ça, ou des fois, c'est en sponsorship d'argent ou quelque chose comme ça. À la taverne, des fois, c'est juste de quoi comme les allouer, venir faire un benefit ou quand même user la salle, t'sais, des choses comme ça. C'est qu'on a tout le temps des choses comme ça on the go pour aider back, donner back à la communauté.
Comment difficile qu'ont été les 2 années de la pandémie pour tes entreprises à toi?
C'était une expérience pour sûr. J'ai acheté la taverne juste au
mauvais moment.
Oui, juin 2020, parce qu'on croyait que la pandémie était une manière de finir, mais c'était loin de ça. Mais j'ai appris beaucoup d'affaires, puis il y a du stuff qu'on n'aurait jamais cru qu'on aurait pu s'échapper avec, que la pandémie nous a loué changer des heures, des choses comme ça, fermer des certaines journées. Ça nous permet d'expérimenter avec des choses comme ça qu'on n'aurait peut-être jamais fait. Ça fait qu'il y a des positifs qui ont sorti de ça aussi, mais en façon de gérer l'inventaire et des choses comme ça, faire des commandes, t'as 200 choses pour jeudi, puis aura tiens que ça coûte 4, tu sais, comme c'est pas nice de pouvoir, tu peux pas faire un menu avec demain, puis ça c'est juste un exemple. Que j'avais déjà parlé du recrutement, mais des employés, ça, c'est très, très, très difficile aussi. Il y avait beaucoup de programmes du gouvernement qui allouaient le monde de travailler moins, je pense, qu'on pourrait dire. Fait que ça pourrait aider beaucoup à Stur, c'est un but meilleur. Mais ces programmes-là sont pas mal terminés. Ça fait que ça va hopefully servir au bac.
En terminant, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui pense de se lancer en affaires ici à Chétiquan?
Comme j'ai dit, il faut que tu sais parer à mettre le temps puis dévouer ta vie pour une couple d'années, pour tes entreprises. C'est toi à voir ça, c'est comment est-ce que tu veux. Tu sais, si tu veux t'en sortir bien, il faut que tu puisses, faut que tu sais paramètre le temps, puis il faut pas que tu aies peur de salir les mains, puis te larguer dedans la tête première. Puis c'est pas mal ça. Puis le autre que ça, des petites choses, être bon tes employés, puis traiter le monde comme il faut, puis ça, ça vaut loin, ça fait que c'est tout de quoi qu'il y a pourtant.
Alors, Mark Neary, merci d'être venu nous parler dans le cadre de la semaine de la petite et moyenne entreprise. Bonne chance.
Grand plaisir, merci.
Bonjour, ici Adèle à Halifax en Nouvelle-Écosse. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Et dans l'œil de notre périscope cette semaine, on semble souffrir des mêmes maux d'un bout à l'autre du pays. La pénurie de personnel soignant dans les hôpitaux ne cesse de faire la manchette. Certaines urgences atteignent par endroits et de manière cyclique des taux d'occupation de 200 voire 300 %, autant dire des taux de dysfonctionnement. Et puis la grande région d'Halifax en Nouvelle-Écosse n'y échappe pas. La Nova Scotia Health tente d'ailleurs par tous les moyens de recruter des médecins généralistes, des urgentologues et des spécialistes. Et pour y arriver, on tire tous azimuts dans la province, au Canada, mais aussi à l'étranger. Adèle Gros-Perrin en a parlé avec Katrina Philopoulos, directrice du recrutement pour la Nova Scotia Health.
Notre province a connu une croissance démographique importante dans toutes les régions, et surtout à Halifax. Et nous savons qu'au cours du dernier mois, 36 % des personnes qui sont à la recherche de médecins de famille sont nouvelles dans notre région. Les stratégies clés vraiment sont accent mis sur les médecins résidents, pour qu'ils sachent que nous les voulons pratiquer en Nouvelle-Écosse. Aussi, nous avons 30% de notre effort de recrutement sont le recrutement international. Aussi, on fait recherche ciblée des candidats utilisant la participation à des événements, des organisations des événements et rejoindre les gens par le biais de plateformes numériques. Il existe d'autres stratégies qui sont axées sur les innovations de l'ensemble du système pour travailler avec les ressources dont nous disposons afin d'améliorer l'accès à ceux qui n'ont pas de médecin. Nous dirigeons vers un modèle où les gens ont l'accès aux soins dont ils ont besoin, là où ils ont besoin et quand ils ont besoin. Et cela vraiment ne peut pas toujours ressembler à un médecin de famille ou à un service d'urgence, mais peut inclure un large éventail des soins de santé dans différents contextes. Par exemple, les soins virtuels, les cliniques de soins primaires et centres de traitement d'urgence qui se trouvent maintenant dans notre province.
La province de la Nouvelle-Écosse qui semble vouloir emprunter la même voie que celle du gouvernement du Québec de la Coalition Avenir Québec, la CAQ qui a fait un virage à 180 degrés lors des dernières élections, elle qui a cessé de promettre un médecin de famille à tous les citoyens, mais plutôt l'accès à des soins. On part vers le nord pour une halte dans les territoires du Nord-Ouest où le Centre du patrimoine septentrional Prince de Galles de Yellowknife célébrait le 21 octobre dernier le 197e anniversaire de la première partie de hockey disputée au Canada. On les croit sur parole. Cette partie aurait été jouée à Deline, D-E-L-I-N-E, en 1825, une ville située à 538 km au nord de Yellowknife. Les gens de Deline affirment que des membres de l'expédition arctique de Sir John Franklin se seraient déliés les jambes sur la glace du Great Bear Lake. Et pour fêter ce 197e anniversaire, les enfants ont eu congé d'école, autorisé en cela par la collectivité des Premières Nations de Deline. Notre journaliste Raphaël Hamel était sur place. Vous pouvez écouter son reportage sur canada-info.ca. La bibliothèque publique de la ville minière de Fermont se hisse tout au haut du classement des meilleures bibliothèques au Québec pour l'excellence de son service et sa gestion des acquisitions. Elle obtient une note de 93%, de loin supérieure à la moyenne québécoise qui est de 66%, une note qui lui est attribuée par le tout premier portrait national des bibliothèques publiques québécoises, publié le 17 octobre dernier par l'Association des bibliothèques publiques du Québec et le réseau Biblio du Québec, ceci au moment où vient de se se conclure le 22 octobre dernier la 24e édition de la Semaine nationale des bibliothèques publiques du Québec, notre journaliste Elisabeth Séguin a rencontré la responsable de la bibliothèque de Fermont, Myriane Chicoine.
Oui, on a eu une note finale de 93% avec 5 dimensions, dans le fond, pour les places assises, pour les ressources humaines, pour les dépenses d'acquisition, les heures d'ouverture et la superficie. Fait qu'on avait, on pouvait avoir des rubans de 1 à 5 et on est très fiers de dire qu'on a eu un ruban 5 pour la bibliothèque. Dans le fond, ça veut dire qu'on a une belle acquisition de livres, des belles collections, qu'il y a les ressources humaines adéquates, puis des heures d'ouverture vraiment supérieures à beaucoup de bibliothèques.
Un nombre croissant d'oiseaux sont infectés par le virus H5N1, l'influenza aviaire au pays. Les cas se multiplient depuis le printemps 2022 partout au Canada, dont au Québec. Même la Basse-Côte-Nord n'y échappe pas, selon les données recensées sur le Réseau canadien pour la santé de la faune, ce site qui recense près de 1400 cas confirmés au pays. Pénélope Clermont a les détails sur canada-info.ca. Et Mme Glenda Doucet-Boudreau a reçu le certificat du Mérite Léger Como 2022 lors de l'Assemblée générale de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse qui s'est conclue le 24 octobre dernier. Le certificat de Mérite Léger Como souligne la contribution exceptionnelle d'une personne à la promotion du peuple acadien de la Nouvelle-Écosse. Mme Doucet-Boudreau a travaillé d'arrache-pied à faire avancer des dossiers importants pour la communauté acadienne. Elle a beaucoup œuvré pour l'obtention des écoles homogènes de langue française, la promotion et l'épanouissement des femmes acadiennes et la pérennité et la vitalité de la culture acadienne. Danielle Aucoin lui parle de sa fierté d'être acadienne.
Je suis fière d'être une acadienne, je suis fière de parler français et puis c'est notre communauté. Puis qu'est-ce qui va la faire avancer si c'est pas nous autres? C'est nous autres à qui elle est plus à cœur, ça fait que c'est nous autres qui doit mettre le travail pour que ça avance. Qu'on pourra rentrer partout dans la province, dans une école homogène de langue française et que les parents seront là et on dira lever la main ceux qui n'étaient pas d'accord avec des écoles comme qu'on a aujourd'hui et pas une seule personne lèvera la main. Les gens sont fiers des écoles. On a travaillé fort. On a travaillé. C'est pas juste Glenda, c'est une pile de personnes à travers la province. Parce que si t'étais pas impliqué dans des choses comme ceci, comment est-ce que tu rencontres les gens du Cap-Breton, de Pamquette, de les autres endroits? Et puis, il y a de ces gens-là qui sont des amis tout à fait spéciaux au jour d'aujourd'hui. Puis ça, c'est un bénéfice que j'ai eu à travailler. Ça m'a donné à toute cette amitié-là de retour.
Madame Léger-Como est aussi à l'origine du livre « Femmes de la Baie-Sainte-Marie », lequel souligne les contributions de 250 femmes de ce coin de pays.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la Baleine, en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Et pour conclure, cette émission se dirige à 290 km au large d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, où l'on peut apercevoir les contours en filigrane de l'île de sable qui nous émerveille depuis des décennies. Cette île inhabitée, transformée en parc national, abrite une colonie de près de 500 chevaux sauvages. Ils sont là en toute autonomie depuis 250 ans. Et l'hiver, des phoques gris venus s'y reproduire par centaines de milliers se joignent à eux. Certains se sont inquiétés pour ces chevaux lors du passage en septembre dernier de la tempête Fiona, qui a causé d'importants dommages dans plusieurs provinces atlantiques et au Québec. Mais vérification faite, les chevaux de l'île de sable se porte bien, la faune de l'île en aurait vu d'autres. Mathieu Destous, gestionnaire par intérim du parc de l'île de Sable, nous parle des chevaux de l'île et des protocoles en place en cas de catastrophe naturelle de ce type.
Sur cette île, qui est devenue une réserve naturelle protégée, résident plus de 500 chevaux sauvages. Ils seraient arrivés vers 1755 suite à la déportation des Acadiens. Un marchand nommé Thomas Hancock aurait placé ses chevaux saisis aux Acadiens et les aurait laissés là pour une raison que l'on ignore encore. Ces chevaux sont depuis en complète autonomie. Le 24 septembre, l'ouragan Fiona a frappé les Maritimes. Que s'est-il passé pour ces chevaux durant la tempête? Nous avons posé nos questions à Mathieu Dastou, le gestionnaire par intérim du parc de l'île de Sable.
Pour l'ouragan, je pense que les chevaux ont vraiment un très bon instinct de survie. Comme l'île de Sable, à part des ouragans qui passent une fois de temps en temps, il y a quand même assez fréquemment des tempêtes. C'est une région où c'est la brume, il y a fréquemment des tempêtes qui viennent de toutes les directions, parce que c'est quand même situé vraiment au centre de l'Atlantique Nord, mais pas complètement au centre, mais quand même, ça subit les effets de l'Atlantique Nord. C'est que les chauves ont vraiment l'instinct dans des conditions comme l'ouragan Fiona d'aller s'abriter derrière des dunes. Il y a quand même des crêtes de dunes significatives sur l'île de Sable. Ça fait qu'il y a la place qu'ils peuvent aller se cacher, se réfugier des vents. Ça fait qu'ils vont aller se regrouper ensemble dans leur bande, puis se protéger des intempéries de cette façon-là. Puis ça fait déjà au lendemain de l'ouragan, l'équipe de personnel qui a resté sur l'île pouvait apercevoir les chevaux en train de se promener, en train de brouter l'arbre de dune comme qu'ils font tous les jours.
Il semblerait que ce soit seulement les bâtiments qui ont été un peu endommagés.
Il n'y a pas eu de blessés. Non, l'équipage est quand même assez habitué à vivre des tempêtes significatives sur l'île. Je pense que le seul dommage, il y a eu un peu de dommage sur les bâtiments, mais c'est surtout au niveau du revêtement des bâtiments, là, le siding, si tu veux, qui a des morceaux qui sont faits arrachés par le vent. Mais à part ça, les dommages étaient quand même limités. C'est quand même des bâtiments qui datent des années 40, mais ils ont été bien construits.
Même dans des conditions plus extrêmes, Mathieu nous a dit que les équipes ne devraient pas intervenir.
En général, on les laisse gérer eux-mêmes. On n'a jamais eu, au moins je ne suis pas au courant d'histoires de grosses tempêtes qui affectent les chevaux. Ça fait fort probable qu'on les laisserait se gérer eux-mêmes.
Si vous voulez aller voir les chevaux, il va falloir attendre l'année prochaine car les visites se font jusqu'à octobre. En hiver, cependant, il sera peut-être possible d'aller voir les phoques gris. Mathieu nous explique comment faire pour aller voir la faune de l'île de Sable.
C'est qu'on peut aller par avion, petit avion, il y a seulement une compagnie qui sera sur l'île, petit avion à 8 places qui atterrit sur le sable, sur des anciennes lagunes qui sont asséchées, qui sont une grande plaine de sable. Ça fait que par petit avion et par hélicoptère, et puis on peut aller aussi par des bateaux de croisière, mais des petits bateaux de croisière plutôt de taille d'expédition. Puis pour aussi, si jamais que les gens ont leur propre vaisseau, leur propre voilier, ils peuvent se rendre aussi par eux-mêmes, ce qui font réservation. Ça fait que les gens doivent quand même réserver à l'avance. La période où on accueille les visiteurs, c'est de la fin mai, début juin jusqu'au mois d'octobre. Depuis l'an passé, on a un nouveau projet aussi où les gens peuvent aller visiter l'île l'hiver. C'est vrai qu'on a un petit nombre de vols cet hiver aussi, où les gens se rendent sur l'île à la période où ce que les phoques gris se rendent sur l'île pour donner naissance aux jeunes, puis s'accoupler. Ça fait que il peut y avoir jusqu'à, on estime, environ 350 000 phoques qui se rendent sur l'île dans cette période-là. Ça fait que c'est quand même assez spectaculaire.
Merci à Mathieu pour cette entrevue. C'était Adèle pour IGL Halifax.
Voilà, c'est la fin de l'émission Point de vue. Merci d'avoir été avec nous. Nos collaborateurs cette semaine sont Vincent Lavoie, Adèle Gros-Perrin, Daniel Aucoin, Raphaël Hamel et Elisabeth Seguin, notre coordonnateur national Stéphane Bénard. Point de vue, on vous le rappelle, est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de visiter le site canada-info.ca pour une foule de reportages en français, en anglais et en espagnol. À bientôt.
Marie-Hélès à Ottawa, en Ontario. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.